La suite de l'émission se fait avec une nouvelle invitée, ainsi que Sylvain, dont je rappelle qu'il est le président du GEST et qui va nous rappeler le but du GEST et en même temps qui va nous présenter notre nouvelle invitée.
Ce matin, on reçoit Colette, la société Subliminov. On va parler d'intelligibilité commerciale, notamment. Donc, elle nous exposera tout ça. Pour faire le lien avec la compréhension, le GEST, c'est quoi ? C'est fédérer les entrepreneurs du territoire, comme je le disais tout à l'heure, et œuvrer en même temps pour le développement de ce territoire. On est entrepreneur, on est à la tête de société, à la tête d'entreprise individuelle, on est freelance, mais on est aussi des citoyens engagés dans notre environnement. Donc, promouvoir le territoire, faire des actions pour l'aider à le développer et faire vivre ce collectif d'entrepreneurs sur ce même territoire. Voilà pourquoi le GEST.
Donc, Colette, peux-tu nous expliquer le but de ton entreprise et où se situe-t-elle, bien sûr ?
Oui, donc Subliminov Conseil est installé dans le Comminges, à Saint-André, qui est un petit village près d'Aurignac. J'interviens, moi, entre Toulouse et les Pyrénées. Voilà, donc je suis dans une position un petit peu centrale par rapport à ça. Et la démarche de Subliminov Conseil, elle est partie d'un constat que j'avais fait dans ma vie professionnelle antérieure, où j'avais remarqué que dans un contexte de vente de prestations de services ou de produits entre professionnels, eh ben souvent les professionnels n'employaient pas le même vocabulaire et employaient souvent un vocabulaire trop technique, trop métier, pour que leurs clients les comprennent clairement. Voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas apporter un petit coup de pouce aux entreprises dans cette optique-là, de leur faire comprendre plus facilement ce qu'ils vendent, ce qu'ils proposent. D'où l'intelligibilité commerciale dont Sylvain parlait tout à l'heure. Et toute la démarche, en fait, c'est de faire en sorte que l'entreprise qui vend un produit technique ou un service un petit peu compliqué se mette à la place de son client et utilise un vocabulaire que le client comprenne instantanément et dans lequel, en fait, il va pouvoir s'imaginer en train d'utiliser le produit ou le service de façon complètement instantanée.
On va revenir un peu sur ton parcours, parce que ça explique aussi la création de Subliminov.
C'est ça.
Il y a une légitimité parce que tu as ce parcours technique aussi.
C'est ça, oui. Comme je disais, ça fait partie d'un constat. En fait, moi, à la base, j'ai une formation technique. Je suis ingénieur chimiste, en l'occurrence. Et juste après mon diplôme, j'ai fait un petit crochet par une école de commerce une année dans un master spécialisé qui était destiné à donner une coloration un petit peu plus business à mon parcours, finalement. Et dont l'optique était de voir comment gérer la technologie et l'innovation à différents points de vue, c'est-à-dire comment interviennent la propriété intellectuelle, l'aspect R&D, la gestion du marketing, des achats, de la logistique, voilà, tous ces petits aspects-là qu'on ne voit pas forcément en école d'ingénieur, et qui, moi, me manquaient parce que, moi, ce qui m'intéressait, c'était pas tant de voir comment se fabriquer les molécules. Une fois qu'on a compris, c'est bien, mais moi, je n'avais pas envie de mettre les mains dans la verrerie et de faire des expériences et d'être à la paillasse. Ça ne m'intéressait pas. Moi, ce que je voulais voir, c'était comment ça rend service. Comment les molécules qu'on développe, qu'on fabrique, qu'on produit, rendent service à l'utilisateur final. Donc, j'avais déjà cette optique-là de, OK, on fait des trucs nouveaux, inventifs, mais ça sert à quoi ? Et surtout, comment on les vend ? Donc, j'ai fait ce petit parcours-là en école de commerce. Et ensuite, j'ai commencé ma vie professionnelle en tant qu'ingénieur commercial dans des entreprises techniques. Donc la première qui s'appelle APS, Autolubrification et Produits de Synthèse, qui vendait des produits, vous connaissez certainement, dans les poils anti-adhésives, le revêtement qu'on met dans le fond de la poêle qui sert à faire en sorte que ça accroche pas. Ce type de produit-là, on en met un petit peu partout dans l'industrie pour différents types d'applications. On le met en chimie pour éviter que les cuves rouillent. On le met en mécanique pour éviter que les pièces qui sont en contact les unes avec les autres s'usent trop vite. Voilà, donc j'étais dans cette démarche-là de proposer des produits vraiment très techniques à des industries qui n'étaient pas censées savoir comment ça se fabriquait. C'était pas ça qui les intéressait. Donc j'étais déjà dans cette optique-là de dire en quoi ça va vous faire gagner de la productivité ou améliorer la qualité de vos produits ou rendre un service complémentaire à vos clients. Donc j'y suis restée un petit moment et ensuite j'ai changé d'entreprise où là j'ai pris vraiment une responsabilité dans la gestion des gammes de produits dans une entreprise qui s'appelait Tecora, qui vendait des produits à destination de l'industrie, mais pour l'analyse des procédés. Le contrôle des processus de fabrication chez les gaziers, par exemple, le contrôle de la qualité des gaz fabriqués chez les gaziers, dans l'industrie pétrolière et aussi dans tout ce qui est l'hygiène industrielle.
D'accord.
Donc protéger les salariés des polluants, que ce soit des polluants chimiques ou des polluants physiques, donc le bruit, les vibrations. Et j'avais aussi toute une clientèle de diagnostiqueurs immobiliers à l'époque. Je leur vendais des matériels un petit peu particuliers, ceux qui servent à détecter le plomb dans les peintures. Alors vous avez peut-être vu des gens chez vous faire des diagnostics plomb.
Oui.
Voilà. Donc c'est des machines en fait qui sont un petit peu particulières, parce qu'en France, les seules machines qui sont autorisées à la vente, c'est des machines qui contiennent des sources radioactives. Voilà, donc moi je vendais ces produits-là.
Okay.
Et j'aidais les entrepreneurs qui étaient des entrepreneurs individuels, qui étaient bon techniques, mais voilà, sans forcément être très calé là-dedans, à gérer tout cet aspect-là un petit peu touchy.
Au-delà de l'intelligibilité commerciale dont tu parles, tu incarnes ce qui est pour moi un défi depuis des années dans le commercial. On a souvent l'image du commercial qui est, ou de la commerciale, tchatcheur, la belle montre, la belle voiture, etc. Et Colette incarne bien ce côté technico-commercial. Mmh. Et c'est pas rien, cette double compétence, parce qu'effectivement, un bon commercial est celui qui va être capable de connaître son produit aussi techniquement, de savoir de quoi il parle, et qui va être capable de le transposer et de le vendre et de l'expliquer.
C'est ça.
Ce qui est ton métier du coup aujourd'hui.
Et c'est la partie vraiment délicate de ce métier-là. C'est-à-dire que si on est purement commercial, on a tendance à vouloir effectivement, comme tu dis, pousser à la vente sans forcément connaître parfaitement comment ça fonctionne et se retrouver parfois mis en porte-à-faux par le client qui a des questions un petit peu précises sur la mise en œuvre. Mmh. Si on est très technique, au contraire, on ne va pas forcément avoir l'idée de se dire comment mon client va l'utiliser et c'est quoi l'argument qui va faire mouche. Donc tout l'équilibre à trouver, c'est ça, c'est comprendre ce que le client attend, ce que son client à lui attend et quels arguments on va mettre en place pour faciliter la vente.
Donc concrètement aujourd'hui, tu travailles avec quel type d'entreprise alors ?
Alors moi, je travaille principalement avec des entreprises de petite taille qui sont gérées généralement pour la partie technique et pour la partie commerciale par le chef d'entreprise. Donc il n'y a pas de service dédié au niveau commercial et a fortiori au niveau marketing. Et qui vend soit des produits très techniques ou qui a des offres de services un petit peu complexes et à destination des professionnels exclusivement.
D'accord, donc en B2B.
En B2B exclusivement. Oui.
Principalement. Et quel type de prestations, du coup, tu réalises pour eux, pour rentrer un peu dans le détail ?
Alors, pour rentrer dans le détail, la prestation la plus facile à mettre en œuvre, on va dire, c'est de partir de l'existant et de faire un audit de ce qu'ils utilisent comme argumentaire. Donc, soit des supports physiques s'ils en ont, ça peut être un site internet, ça peut être des plaquettes, des flyers, ou alors tout simplement, je rencontre le client, je leur dis « Ok, imaginez que je suis votre client, comment vous me vendez votre truc ?» Donc, à partir de là, je vois si le chef d'entreprise est à l'aise avec son produit, si les arguments qu'il utilise ne sont pas trop techniques, si le vocabulaire qu'il emploie, je suis à même de le comprendre. Voilà, on peut dégager déjà des axes d'amélioration par rapport à ça. Généralement, ça commence comme ça. C'est des entreprises qui se disent « Tiens, là, c'est bizarre ce produit-là, je ne le vends pas très bien, je ne comprends pas pourquoi. » Ou alors, j'ai des mauvais retours sur ce produit-là de mes clients, ils s'attendaient à autre chose. Enfin, voilà, ils n'ont pas acheté ce qu'ils croyaient acheter. Donc, on part de là. Donc, effectivement, comme tu le disais, le leitmotiv de Sublineuf Conseil, c'est l'intelligibilité commerciale. Mais en réalité, ce qui se cache derrière, c'est vraiment un accompagnement de l'entreprise et de l'entrepreneur dans sa démarche marketing, c'est-à-dire... Alors, je ne pousse pas le mot marketing au début parce que souvent, on met des choses derrière qui ne sont pas ce que moi, je mets derrière. Dans le marketing, moi, dans mon idée, c'est je vends un produit ou un service qui a sa place dans une gamme de produits et de services dans mon entreprise. Comment je fais pour qu'il y ait un équilibre entre tous ces produits et ces services-là, qui ne se marchent pas les uns sur les autres, que les clients comprennent pourquoi il y a celui-là et pourquoi à côté il y a cet autre-là, pourquoi j'ai des options particulières, elles servent à quoi, elles rendent quel service supplémentaire et comment je les valorise. Et donc, la démarche classique, généralement, suite à un premier audit et des premiers axes d'amélioration sur l'intelligibilité commerciale d'un ou plusieurs produits ou services, c'est de se dire, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de faire un état des lieux, de savoir ce que je vends ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à améliorer sur le positionnement de certains produits ou services de ma gamme ? Est-ce que je suis au bon prix par rapport à mes concurrents ? Est-ce que,
la bonne cible.
Exactement. Est-ce que je cible les bons clients ? Est-ce que je n'ai pas oublié des cibles potentielles ? Voilà, donc Moi, je ne vends pas des études de marché, c'est-à-dire que je ne fais pas à la place de mon client parce que je ne suis pas mieux placée que lui pour connaître sa clientèle et je n'ai pas de légitimité par rapport à ça. Mais je lui facilite la tâche en lui posant les questions qu'il aurait dû se poser ou qu'il se pose vaguement mais qu'il ne va pas creuser. Je suis là un petit peu pour mettre les pieds dans le plat.
Souvent, le travail d'un consultant de poser la question qui ne s'était pas posée jusque-là.
C'est ça. Ou des fois, on se la pose, là, elle tourne, mais on ne veut pas y répondre.
Hein. Et puis, on l'évite, on ne veut pas vraiment y aller. Et ce qui est important dans ton discours et qui peut être le défaut de certains commerciaux ou certains chefs d'entreprise qui n'ont pas de formation vente, parce qu'on a aussi des fois et souvent des techniciens à la tête d'entreprise qui ont une super expertise technique, mais justement qui ne savent pas la vendre. Donc ceux-là sont des clients privilégiés pour toi.
Exactement.
C'est traduire aussi les caractéristiques d'un produit en bénéfice.
C'est ça, c'est en valeur d'usage, plus qu'en fiche technique. Sur des entreprises vraiment très très techniques, souvent ce qu'ils ont, c'est un catalogue. Et dans le catalogue, il y a toutes les caractéristiques techniques de leur produit, le poids, les dimensions, les performances attendues. Mais en réalité, ça ne suffit pas forcément au client pour faire son choix. Déjà parce que par rapport à un concurrent, il ne va pas présenter les choses de la même manière, donc ce ne sera pas directement comparable. Ou alors, c'est vraiment, vraiment trop technique. Et à ce moment-là, le client se dit... Je vois pas. J'ai pas envie d'aller plus loin, je vois pas ce qu'il veut me vendre. Voilà, donc l'idée c'est de dépasser ce premier blocage là et comme je disais tout à l'heure, que le client puisse se projeter immédiatement dans l'usage en se disant mais oui, je vois ce qu'il veut dire, ça m'intéresse, j'ai envie d'en savoir plus. Et là on peut aller dans les caractéristiques techniques.
Les projets pour Subliminov?
Moi j'ai un parcours et à l'heure actuelle une équipe de vie un petit peu atypique par rapport à d'autres entrepreneurs, c'est-à-dire que je ne suis pas uniquement entrepreneur et je trouve un équilibre en fait dans ma vie entre plusieurs activités. Voilà, je suis quelqu'un de très curieux et je ne me satisfais pas d'une seule activité, sinon je m'ennuie. Donc j'ai une activité, à l'occurrence de chef de projet salarié pour l'université Paul Sabatier sur un projet européen qui prend un petit peu de temps. J'ai une activité bénévole dans une association humanitaire dont je fais partie depuis 2004, qui me prend aussi un petit peu de temps, parce que j'ai des responsabilités en termes de management. Et par ailleurs, donc, dans le cadre de Subliminov, eh ben, j'ai mes clients dont je me rends compte que des fois, ils manquent un petit peu d'efficacité dans leur façon de fonctionner. Donc, le développement là, que j'envisage pour Subliminov sur cette année et l'année prochaine, ça va être de proposer des offres un petit peu complémentaires à l'aspect marketing vraiment produit, qui va être plus dans l'aspect organisationnel de l'entreprise. C'est-à-dire comment je fais pour justement ce temps que je n'ai pas réussi à me dégager pour me poser ces questions-là, où est-ce que je peux le trouver et comment je peux m'organiser pour être plus efficace dans mon travail et pas me laisser bouffer par des choses.
Par le quotidien.
Par le quotidien, voilà.
Une vidéo sympa en tout cas sur Facebook, sur les réseaux sociaux qui tourne ce professeur qui montre comment gérer les priorités dans sa vie et qui prend l'image de balles de golf, de gravier et de sable. Le sable étant les petites choses et les balles de golf les choses importantes. Et si on met le sable d'abord, on n'a plus la place de mettre les balles de golf qui sont les choses importantes. Donc c'est souvent ça aussi, péché mignon du chef d'entreprise, c'est qu'on est avalé par le quotidien et on ne prend plus la distance pour regarder son entreprise. Donc Colette, aide les entrepreneurs à ça. Et comment tu as mal tourné alors? Comment tu t'es retrouvée au geste?
Comment je me suis retrouvée au geste? D'accord, je te disais, moi j'aime bien faire plusieurs choses à la fois, sinon je m'ennuie. Donc je fais partie de différents réseaux d'entrepreneurs qui ont chacun des vocations différentes. Moi, ce qui m'intéressait dans le geste en particulier, c'était l'aspect vraiment au service du territoire, au service du développement économique et le fait que les entrepreneurs mettent un petit peu la main à la pâte, en main dans la main avec les collectivités territoriales pour trouver des nouvelles idées de développement et vraiment créer une dynamique sur le territoire. Même si ce n'est pas un territoire sur lequel moi j'habite, voilà, exactement, mais sur lequel j'évolue, puisque comme je le disais, mes clients sont entre Toulouse et les Pyrénées, donc le geste est pile au milieu. Et voilà, j'avais envie de mettre la main là-dedans et de donner un petit peu de temps et de voir ce que je pouvais apporter. Et chacun, on a des compétences différentes, donc c'est intéressant parce que dans les groupes projets qui se montent, on se rend compte que on a des équipes qui fonctionnent parce qu'on est tous différents.
Très complémentaires, ouais. Et donc particulièrement investi sur la commission entrepreneuriat. Et notamment, tu vas en dire un mot parce qu'on est sur le mois du lancement.
Ça y est, on brise.
Hein. Mais je brise pas le suspense parce que j'avais laissé filer le mot il y a quelques émissions. Mais donc, on est sur le lancement de l'Intraboost.
Exactement. Donc, l'Intraboost, c'est une démarche complètement nouvelle en fait en France, qui n'a pas d'équivalent à l'heure actuelle, qui se propose d'emmener des entreprises de territoire sur une démarche d'intrapreneuriat. c'est-à-dire de les solliciter pour qu'elles créent une petite équipe projet, le temps d'un jour et demi, des équipes de 5-6 personnes. Et l'idée, c'est qu'elles viennent réfléchir sur un défi qu'elles ont dans l'entreprise. Quelque chose sur laquelle elles aimeraient avancer. Alors, ça peut être dans le domaine des ressources humaines, ça peut être dans le management, ça peut être dans l'innovation. Le sujet est complètement libre. Et l'idée, c'est qu'on vienne nous leur apporter un soutien sur cette durée-là qui va être contrainte, qui va être d'un jour et demi. On va les plonger en immersion avec leurs défis et avec un coach à côté qui sera choisi en fonction de leurs défis particuliers. On espère qu'à l'issue de ce jour et demi-là, elles vont vouloir continuer la réflexion en entreprise et pouvoir, au bout d'un certain temps, donc on va leur laisser 4 mois, pour qu'elles puissent être à même de présenter les avancées de cette réflexion-là. Et on va les valoriser à l'issue de cette réflexion-là, lors d'un grand événement qui aura lieu début 2019.
Tu vois, c'est tout ça qui illustre bien, Francis, les gens du geste. Et j'invite tous les entrepreneurs du territoire à nous rejoindre parce qu'on a une panoplie de compétences au sein de ce club, en allant du consultant au restaurateur à des boîtes comme Inopsis qui font de l'optique de précision. Et Colette le disait, c'est innovant parce que ça se fait pas en France. Donc nous, petit club rural, on est en train d'œuvrer pour l'intrapreneuriat. Et voilà, c'est des idées juste géniales qui sortent comme ça. Et innovant aussi parce qu'on ne fait pas, je vais reprendre le mot que tu utilisais tout à l'heure, mais simplement un coup marketing. On veut qu'il y ait du fond, on veut aussi aller plus loin. Et donc, il y a un suivi dans la durée sur cette action-là. On va aller plus loin que la start-up à... où on avait mis les boîtes à un concours sur 2 jours. Là, il y a ce temps fort d'une journée et demie, mais avec poursuite des travaux et présentation des réalisations et des avancées qui seront faites par défi. Donc voilà, Colette est aux côtés de Julien et de Mélanie, qu'on a tous reçus à ce micro aussi avant. Une belle équipe projet et des gens qui sont venus se greffer. Donc, donc ça travaille dur en ce moment.
C'est ça.
C'est important que tu rappelles les coordonnées du geste pour les auditeurs et les entreprises surtout qui ont envie de vous rejoindre.
Et puis on va donner les coordonnées de Colette aussi après.
C'est important aussi.
Donc pour le geste, c'est www.legeste.fr, legeste.fr, et l'adresse email contact@legeste.fr.
Et pour Colette ?
Alors, les coordonnées de Subliminov Conseil, le site web www.subliminov.com, une adresse mail conseil@subliminov.com et un mobile 06 79 21 57 47.
Merci à vous deux.
Merci Radio Galaxy.
Merci Radio Galaxy.